L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Est belle. Il a encore de l'air dans les poumons, puis suffoque et voit de moins en moins. Instinctivement, son corps veut remonter à la surface, mais une force surhumaine l'en empêche. Il donne un coup de pied pour continuer à descendre. Et se laisse aller. Il lui semble que ses poumons vont exploser. Ses membres ont des fourmillements de partout. Une grande douleur dans la poitrine. Oui, une grande douleur dans la poitrine. Trou noir. Trou noir. Sylvie se réveille et ne le trouve pas. Elle est heureuse. Va vers la porte-fenêtre. Et ouvre la porte-fenêtre. Une belle journée qui a commencé. Oui, une belle journée a commencé. Adrien est convoqué au commissariat. Un commissaire lui dit « Vous êtes accusé de fraude fiscale. Il y a eu une enquête du fisc. Vous n'avez pas tout déclaré aux impôts. Et on a trouvé que vous aviez un train de vie plus grand que votre salaire. Vous risquez la prison et vous devez payer une forte amende. Je vous demande d'où vient l'argent qui a servi à avoir une vie que vous avez. » Voiture, château, etc. Il ne répond pas, car il sent qu'il est perdu. Alors, on lui dit, « Nous avons fait une enquête dans votre clinique et certaines personnes ont parlé et on a trouvé que vous faisiez du trafic de morphine. On pense que c'est pour blanchir cet argent que vous avez acheté des biens. Vous les avez achetés par l'intermédiaire d'un ami. Nous allons aussi ouvrir le dossier du meurtre de la famille Villeneuve, car l'on a trouvé que vous avez donné une bonne somme après le meurtre des Villeneuve à Jules Villeneuve. Jules Villeneuve, point d'interrogation. Une somme à lui. Pourquoi ? Et qui est Villeneuve ? Ne serait-il pas François Ferret, car ce dernier Jules Neuve a dû prendre le nom de celui qui a été assassiné. Comment s'appelle la personne qui a pris son nom ? Ne répond pas. On lui dit, le juge va donner l'ordre de confisquer tous vos biens et vous êtes mis aux arrêts. Il se sent perdu. On lui dit, nous sommes sûrs que les deux affaires Villeneuve et Mandet sont la même affaire. Alors, il ne sait quoi répondre. Il se dit que Jules est mort, Marie aussi. Il n'y a plus de témoins dans cette affaire. Ils ne trouveront sûrement rien. Mais il y a les sommes qu'il a données à François Ferret. Il se dit aussi qu'il n'aurait pas fait le lien entre les deux affaires si le fils de Jules n'avait pas fréquenté le soi-disant fils de Marie. Ils ont dû faire une enquête pour savoir qui il fréquentait et ils ont appris l'enlèvement du fils de Marie et les dates. Ils ont vu aussi que Jules n'avait pas de femme. La disparition de François Ferret et l'apparition de Jules Villeneuve et de son fils qui a le même âge que le fils de Marie enlevé. Ils ont vite fait de faire les liens et de surveiller Adrien parce qu'il était le frère de la femme de Jules et qu'il a hérité. En le surveillant, ils se sont aperçus du trafic de drogue. Ils se demandent pourquoi il a cherché à s'enrichir avec tout l'argent qu'il avait. Maintenant, il est perdu. Et puisqu'il a volé l'État, personne ne pourra l'aider à sortir de ce pétrin. Même pas les francs-maçons. Alors il peut dire la vérité, de toute façon il est perdu. Et c'est ce qu'il fait. On le mène en cellule au commissariat. il ne dit plus rien et demande un avocat. Les preuves sur le crime des Villeneuve ne sont pas assez suffisantes pour qu'on l'accuse. Et puis, c'est si loin, si loin. C'est ce que pense le juge qui lit le dossier de l'accusation. Pour ce qui est de cette affaire d'enlèvement d'enfants et de changement d'identité, l'affaire est malheureusement close. Il ne lui reste plus que l'affaire du trafic de morphine, et là, il est bien accusé et les preuves sont contre lui. Après des mois et des mois de préparation, il est enfin jugé. Et il prend pour 10 ans de prison ferme. Il ne peut plus exercer la médecine et a une grande amende. Tous ses biens sont confisqués par l'État. La clinique devient une clinique qui appartient à l'État et l'État va la mettre en vente. Il est fini. Il se dit qu'il n'est qu'un imbécile. Il avait tout et on ne pouvait rien contre lui. Il a perdu tout ça pour une histoire de trafic idiot. Il est mis en prison, mais comme il était une personne importante dans la ville, on le met dans une prison moderne, où il a une pièce pour lui seul, il peut même faire de la gymnastique seul. Il passe son temps à lire et à écrire ses mémoires, qui auront beaucoup de succès lorsqu'il sortira de prison. On l'invitera sur les plateaux de télévision pour raconter son histoire. Dans son livre, il pourra même raconter l'affaire Villeneuve et Mandet. Et comme il aura été bien sage en prison, au bout de 5 ans, il va sortir et va se lancer dans les affaires. Et réussira dans les affaires de propriété d'hôtel. L'oncle console Sylvie. Elle pense qu'il s'est tué. Un policier lui dit « Il a dû avoir un malaise. » Et en est mort. De loin des malheurs, des nageurs l'ont vu entrer dans la mer, mais pas en ressortir. Alors, on a prévenu les autorités, mais on n'a pas retrouvé le corps. Un mois plus tard, alors que Sylvie est entrée en France, un jeune homme qui semble avoir dans les 30 ans, habillé de blanc, porte un chapeau qui cache son visage. Il entre dans un hôtel et demande une chambre au nom de Damien Villeneuve. Il n'a pas de valise. On lui donne une chambre. Un autre jeune homme, plus petit, habillé aussi de blanc, casquette sur la tête, demande une chambre au nom de Patrick Mandet. On lui donne une chambre. Puis ils sortent tous les deux de leur chambre, après avoir rangé leurs affaires, et sortent tous les deux séparément pour aller sur la plage déserte. Ils se retrouvent et marchent en silence l'un côté de l'autre. Le grand dit « Ça va ?» Le petit dit « Oui, ça va. Je suis bien maintenant. » Tout est bien. Et toi? Moi aussi. J'ai cru que tu n'allais pas me rejoindre. J'avais peur. Pourtant, je te faisais des signes pour que tu viennes. Mais je ne savais pas comment c'était ici. Tu vois, on est bien. Je vis comme ça. Je vois et tu es heureux. J'ai peur de ne pas te revoir. Le petit lui dit, « Si tu me vois, et nous allons toujours être ensemble, personne ne pourra nous séparer. » Patrick lui demande, « Comment as-tu su que tu allais me retrouver ici ?» Damien lui dit, « Je ne sais pas, je me suis laissé guider, et puis j'ai entendu. » Patrick lui dit, « Ce coin est vraiment délicieux, pourquoi ne pas rester ici ?» Damien lui dit, « Comment as-tu su qu'il fallait faire pour te libérer ?» Patrick lui dit, « À Annecy, je me suis rendu compte que ce serait toujours pareil, que nous serons toujours fermés, toi et moi dans ce monde, toujours dans une histoire pour toujours. Lorsque j'ai lu les journaux, j'ai compris que c'était fini, que nous ne pourrions plus jamais être heureux. Alors j'ai accepté de me laisser guider, et voilà. Quant à toi, j'étais sûr que tu viendrais me rejoindre. » Damien fait face à Patrick et le prend dans ses bras. Patrick lui dit en riant, « Attention, je peux disparaître, c'est interdit. » Damien lui dit, « Te voir me suffit. » Et il retourne à l'hôtel. Dans sa chambre, Damien enlève le Christ qui est au-dessus de son lit et se couche. Puis Patrick vient le rejoindre et se plaque contre lui sans le serrer. Ils sont nus tous les deux. Patrick dit à Damien, « Demain, il faut partir, ne jamais rester au même endroit. » Damien lui demande, « Pourquoi ?» Patrick lui dit, « On ne doit pas être pris. » Damien embrasse Patrick sans le serrer et lui dit, « Je t'aime. » Patrick lui dit, « Moi aussi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. » Fin. Et Philippe reprend une feuille pour réécrire l'histoire du début. La pièce est dans la pénombre. Elle n'est éclairée que par une lampe de chevet qui se trouve sur une petite table. Et assise sur une chaise, une jeune fille. Elle est habillée d'une robe grise toute simple. Elle est mince, blonde. Son visage est buté. Marche nerveusement dans la pièce, les mains dans les poches, un jeune homme qui est grand, mince, cheveux châtains, visage doux. La jeune fille dit au jeune homme, « Je veux mon enfant, que pour moi seul. Je ne veux pas d'homme. » Lui est furieux. Il s'arrête de marcher. Oui, il s'est arrêté de marcher. Lui fait face. Lui dit. Moi, je l'ai fait, cet enfant, avec toi. Il est autant à moi qu'à toi. C'est mon enfant. Oui, c'est mon enfant. Sans moi, tu ne l'aurais pas eu. Elle lui dit. Non, seulement à moi. L'enfant est dans mon ventre. C'est moi qui le crée. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une garce. Tu t'es joué de moi. Tu as joué à l'amour pour que je puisse te faire un enfant. Et maintenant tu me rejettes. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je t'ai fait un enfant. Il est autant à moi qu'à toi. T'as compris ? Elle lui dit butée. J'ai voulu un enfant, mais je n'ai pas voulu un homme. Je t'ai eu, pauvre François. J'avais besoin de toi. Mais tu savais très bien que je suis lesbienne. Il est furieux d'avoir été joué. Je ne supporte pas que tu t'aies joué de moi. Je veux me venger. Et puis, je vais déclarer à la mairie que je suis le père du petit. Non, je ne veux pas que tu le fasses. Cet enfant n'est qu'à moi. Je ne veux pas que tu sois officiellement son père. Il lui demande. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin d'un homme pour m'occuper de lui. Il lui dit. Peut-être, mais lui aimerait avoir un père près de lui. Elle lui dit, tout ça sont des histoires. Un enfant n'a pas besoin d'un homme, il n'a besoin que d'une femme pour s'occuper de lui, une mère et rien d'autre. Et puis, assez discuté, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. Il s'approche d'elle, furieux, et lui donne une gifle. Elle se lève furieuse et lui dit « Recommence et je porte plainte contre toi. » Il quitte la pièce, furieux. Et la propriété qui est une villa qui se trouve à Charbonnières. Et la propriété qui est une villa qui se trouve à Charbonnières. Prendre sa voiture pour rentrer chez lui à Lyon. Je vous conseille de relire cette histoire car je suis sûr que vous n'avez pas trouvé la clé de l'histoire. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junet Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junet Jean-Pierre.